Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lecture en tête à tête, une émission de Lecture en tête en partenariat avec L'Autre Radio. Aujourd'hui, nous recevons Marie Bois-Gontier, conseillère municipale déléguée au patrimoine et aux bibliothèques. Bonjour Marie Bois-Gontier.
Bonjour.
Alors avant d'être conseillère municipale, tu as été libraire pendant 43 ans, donc tu connais particulièrement bien le milieu du livre. Alors première question toute simple, j'allais dire, c'est quoi pour toi être libraire ?
Alors, c'était... 43 ans de librairie, c'est vrai que ça marque son époque, exactement.
C'est une vie, en fait.
C'est une vie, exactement. Donc moi, j'ai toujours aimé lire, depuis toute petite. Donc j'allais à la bibliothèque, parce que je suis née à Andouillé en plus. Donc j'allais à la bibliothèque, qui était dans la mairie d'Andouillé. Je empruntais des livres à ce moment-là et j'ai toujours aimé lire. Donc passion sur passion, Donc j'ai passé un brevet... un BP libraire et ensuite, voilà. Donc moi, j'ai travaillé d'abord mon parcours. J'ai travaillé d'abord à la Maison de la Presse pendant 12 ans. Mmh. Où à cette époque, la Maison de la Presse, il y avait une énorme librairie tenue par Madame Quentin. Ensuite, pendant 2 ans, j'ai été sans emploi, mais je lisais toujours, bien sûr. C'était vraiment ma passion. Et ensuite, j'étais embauchée à mi-temps à la librairie Lavalloise, qui s'appelait à cette époque Lavalloise, et tenue par Monsieur et Madame Bussy. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant 10-12 ans. Et puis, après, j'ai dit, il est temps de prendre son envol. Il est temps, la librairie était en vente. Donc,
Une belle opportunité, en fait, que tu as su saisir à ce
exactement.
Moment-là, en fait. Alors, c'est vrai que tu dis, c'est une passion, en fait. C'est vrai que quand on est libraire, c'est pas un commerce comme les autres. On a eu l'occasion déjà de l'évoquer, ça. C'est vrai qu'il y a un lien fort affectif avec le livre et même, je dirais, une forme de tendresse même pour les auteurs, je crois. Et personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté, la littérature ?
Donc, la littérature m'a apporté beaucoup de choses sur les voyages, sur la vie des gens à l'étranger, sur la vie politique, sur la vie des auteurs, et puis le partage des connaissances en littérature et les faire partager avec d'autres personnes, quoi.
Oui, c'est peut-être le mot le plus important, presque.
Partager, parce que nous, en tant que libraires, on est vraiment les passeurs de livres, des médiateurs de l'édition à la vente du livre, et on est vraiment très...
Essentiel, en fait.
dans la vie de chacun, quoi. Pour les gens qui lisent, bien sûr.
Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre question qu'on va évoquer ensuite. Alors, comment est-ce qu'on passe finalement de libraire à conseillère municipale ? Parce que finalement, c'est deux métiers très différents. Et ça a été quoi au départ, ta motivation pour te lancer, j'allais dire, là-dedans ?
Parce que bon, c'est-à-dire que j'étais à la retraite depuis un an et demi, 2 ans. Et on est venu me voir en me demandant si ça m'intéressait. Moi, j'ai dit, pourquoi pas ? Une expérience en plus, pourquoi pas ? Et puis, on a fait campagne et on a été élus par surprise. Et c'est une expérience très, très intéressante, très, très enrichissante.
Oui, parce que finalement, on est encore sur le partage, en fait.
Voilà, exactement.
On va à la rencontre des gens, même si c'est élargi, pour le coup, parce que c'est la bibliothèque, le patrimoine, c'est la culture dans son ensemble.
Voilà. Et je voulais vraiment avoir un poste, une délégation qui avait un rapport avec mon métier. Donc, patrimoine et bibliothèque, là, c'était un rapport avec mon métier, où déjà, je connaissais tous les rouages de la bibliothèque, puisque je connaissais tout le personnel de la bibliothèque municipale, et le patrimoine aussi, en relation avec l'histoire de l'art, avec beaucoup de choses par rapport à mon métier de libraire.
En tant que passionnée de littérature, donc pour toi, aller vers le livre, c'est quelque chose d'assez de facile, d'évident même, mais pour beaucoup encore, et malgré le fait que la littérature se soit énormément diversifiée, on peut dire qu'il y en a pour tous les goûts, pour le dire très simplement, mais pour d'autres, c'est difficile de pousser les portes, alors j'allais dire d'une librairie, mais aussi parfois de la bibliothèque ou des lieux dédiés à l'art en général. Comment est-ce que toi, tu analyses le fait que la littérature, ça fasse un peu peur, en fait ?
Alors, la littérature fait peur quand on est un petit peu élitiste, mais quand on lit de tout, parce que moi, je lisais tout, aussi bien roman facile, pas facile. Pour moi, c'est la littérature en général. Il n'y a pas de roman facile, roman difficile, il n'y a pas de...
Oui, c'est important de rappeler
ça. Et c'est très important. Et Et chacun peut lire, enfin voilà, même une personne qui n'a jamais lu de sa vie à la retraite peut commencer à lire, pourquoi pas. Alors, la motivation, c'est qu'il faut essayer d'être à la portée des clients. C'est-à-dire se mettre ou prendre les livres sous le bras et aller voir les gens dans les quartiers, comme nous on a fait beaucoup avec la librairie Aime Lire. On allait vers les gens avec nos livres sous le bras, comme fait le festival du premier roman, où vous allez hors les murs. On allait hors les murs pour rencontrer un autre public qui n'osait pas pousser les portes de la librairie.
Ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Voilà. Cette idée, effectivement, de sortir des murs, ouais. Effectivement, pour proposer des choses et puis rassurer, voilà. En fait, par rapport à la littérature, parce que, ouais, je pense qu'il y a un petit complexe d'infériorité, quand même. Alors, c'est peut-être lié au territoire, hein. Voilà. Peut-être que pendant longtemps aussi, la Mayenne, c'était un lieu où finalement il y a peut-être assez peu de propositions culturelles. C'est beaucoup moins vrai maintenant, mais c'est peut-être un peu ancré en nous, cette espèce de peur de dire oui, mais ça, c'est pas pour nous.
C'est pas pour nous, voilà, fait. Exactement.
Ce ne pas aimer quoi. La littérature, ça pourquoi pas. Moi, je suis qui me dit j'aime pas lire, mais j'aime le foot, bah, c'est très bien, voilà, il n'y a pas de problème. C'est pas incompatible en plus. Mais c'est par contre, ouais, cette fameuse phrase, c'est pas pour moi, et j'imagine que ça, c'est quelque chose que toi, tu as dû entendre.
Qu'on a entendu régulièrement en disant ben, c'est pas pour vous, mais vous savez, il y a toutes sortes de littérature.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc il y en a pour tous les goûts.
Voilà, on peut trouver tous des choses. Et puis, c'est de jamais considérer qu'il faut... vous prenez un livre, allez hop, il faut lire jusqu'au bout. Non, voilà. On peut aussi picorer, lire des extraits, reposer. Voilà. Et puis, bien insister, comme tu l'as dit, sur le fait qu'il n'y a pas de mauvaise ou bonne littérature, voilà. En fait. Mmh. On est tous de bons lecteurs.
Voilà,
même si on
exactement.
Lit peu, voilà, c'est ça, en fait. Alors, nous allons faire notre première pause musicale avec La tendresse, ça va nous faire du bien, de Bourvil, et c'est le choix de notre invité.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin. des jours.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Lecture en tête à tête et nous recevons Marie Boisgontier. Nous allons maintenant parler de Lecture en tête, une association que tu connais bien. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Qu'est-ce que Lecture en tête pour toi? Voilà.
Alors, c'est une longue histoire. Hein. Lecture en tête a été créée à la librairie Lavalloise. C'était Madame Bussy qui était présidente il y a 32 ans maintenant. Et là, elle a été créée. Voilà, j'étais membre de l'association dès le début. Et c'est une association qui a fait énormément évoluer la littérature contemporaine. Et où il y a eu des sélections de premiers romans qui ont été extraordinaires. Enfin, voilà, quoi. Donc, au début, on était une dizaine, même pas, dans l'association, à lire, à lire quelques premiers romans.
Alors, il y avait peut-être beaucoup moins de premiers romans.
Il y avait peut-être moins de premiers romans, exactement. Mais on était quand même, voilà, et on faisait un petit festival, quoi. On avait 10 auteurs, on avait, voilà, ou même pas 5-6 auteurs, et voilà. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Et l'association, c'est une association qui me tient vraiment à cœur et que je soutiens amplement.
C'est vrai que oui, les premiers romans, je pense que passaient vraiment plutôt inaperçus, en fait, je pense, à l'époque. Encore un petit peu maintenant, parce que bon, il y a déjà énormément de premiers romans. Hein, on en reçoit, en tout cas, à l'association, on en reçoit à peu près entre 150 et 200 par an. Donc, c'est énorme. Donc, je ne sais pas, il y a 30 ans, effectivement, pardon, il devait y en avoir quand même un petit peu moins. Mais ça permettait de valoriser la littérature, en fait.
Exactement. Et après, dans les salons, quand je rencontrais les auteurs qui avaient pris leur envol, par exemple, Ruffin, par exemple, il avait sorti son premier roman, L'Abyssin. Et à chaque fois, c'est une relation entre la libraire et le primo-romancier à cette époque était vraiment extraordinaire, quoi. Et moi, je suis dans ces... Voilà. Il me disait, mais Marie, c'est toi qui m'as lancé, c'est toi, voilà. Et Yaya Bellasri aussi.
Ah oui.
Il me disait, mais Marie, mais c'est toi qui m'a fait découvrir au monde, qui m'a lancé dans mon métier d'écrivain. Et vraiment, je te remercie. Et je remercie aussi l'association Lecture en tête.
Oui, il y a vraiment une reconnaissance. Voilà. En fait, mutuelle, en fait,
voilà.
Parce que c'est l'amour que tu as et puis qu'ont les lecteurs pour la littérature et puis en retour les auteurs qui reconnaissent le travail qui a été fourni
à cette époque où ils étaient vraiment primo romanciers et vraiment très timides, ne sachant pas qu'ils allaient continuer une profession d'auteur et de
oui.
Voilà, c'est ça, quoi.
Oui, il y a l'espoir, mais enfin, après, il peut y avoir la réalité qui rattrape.
Exactement. Exactement.
Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi de le rappeler, parce que comme la littérature fait peur, les auteurs peuvent faire peur un petit peu aussi. Bon, nous, à Laval, on reçoit en particulier, pas que, mais des primo-romanciers qui sont souvent des jeunes gens, alors pas toujours jeunes, mais voilà, ce sont des gens qui ont une vie, j'allais dire, à côté. Ils sont souvent obligés de travailler, d'ailleurs, pour vivre de leur art. Et ce sont des gens très simples, en fait.
Exactement.
Donc, il ne faut pas hésiter à aller finalement vers l'auteur parce que ce sont des gens qui sont extrêmement accessibles.
Oui, et puis c'est des belles découvertes. Hein. Je dis, il faut les aider, ces primo-romanciers, je veux dire, parce que quand ils arrivent au festival, c'est la première fois qu'ils rencontrent un public, c'est la première fois qu'ils discutent directement de leurs livres, et c'est impressionnant, c'est un peu intimidant pour eux.
Je pense.
C'est même stressant, intimidant, et voilà. Et en général, ça se passe toujours très très bien, quoi.
Il y a l'effet de groupe, puis on a des modérateurs qui réussissent à mettre à l'aise tout le monde. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important à rappeler. On a été plus rapide. Je voulais parler, effectivement, évoquer donc le festival, puisque nous organisons chaque année le festival du premier roman et des littératures contemporaines. Alors en 2024, il aura lieu du 4 au 7 avril. Donc c'est avant tout un espace de rencontre. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début, en fait. C'est ça, en fait, avant tout, la littérature. C'est de la rencontre entre les différents publics de lecteurs, les auteurs, les jeunes primo-romanciers, les vieux auteurs confirmés, ils apprécieront. Voilà. Donc c'est vrai que pour vous, même si on a commencé déjà un petit peu à répondre à cette question, le festival, qu'est-ce qu'il apporte selon toi au territoire, en fait ? Alors, on est plus sur Laval, mais bon, c'est quand même un gros événement mayennais.
Alors il faut savoir que la Lecture en tête, l'association mène un défi à chaque festival, de toute façon. Il faut savoir que, est-ce que ça va bien fonctionner? Est-ce qu'on va avoir un public? Est-ce que, voilà. Parce qu'on présente des auteurs dont personne n'a jamais parlé, quoi.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est vraiment un grand défi pour l'association. Et on touche tout le territoire de la Mayenne, parce qu'il faut savoir que ces primo-romanciers, ces livres, sont dans différentes bibliothèques de la Mayenne.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, il y a quand même des lecteurs de bibliothèques qui participent à des ateliers, à des présentations d'auteurs, etc. Donc, c'est vraiment très important pour le département de la Mayenne et pour la ville de Laval, bien sûr. Qui accueille bien sûr le festival avec enthousiaste.
Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait de sortir le livre des murs, j'allais dire exposer aussi les auteurs. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de lire un livre qu'on a aimé et ensuite de rencontrer son auteur, de l'écouter. C'est un beau cadeau en fait. Au final, c'est vraiment un super moment.
Voilà,
quoi.
C'est un super moment. Puis on approfondit nos lectures. On a des choses peut-être des fois qu'on comprend pas bien. Pourquoi il a écrit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a vu le monde comme ça.
Oui.
Et il y a une discussion qui s'engage avec l'auteur et on approfondit complètement nos lectures.
Et c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres lectures, parce que parfois on entend des auteurs, en l'occurrence, surtout pour les primo-romanciers, qu'on ne connaît pas, et c'est des univers en fait, qu'on vient découvrir et puis se dire, en fait, ça me plaît.
Voilà. Exactement.
Et ça permet, oui, je trouve, de dédramatiser un petit peu le rapport à la littérature.
Oui.
Et ce qui est important aussi de rappeler... cet aspect, cette idée de on fait sortir le livre, on rencontre des auteurs, on se rencontre aussi entre lecteurs et en fait chacun peut prendre la place qu'il veut. C'est vrai que, et je pense que quand on entre dans une librairie c'est pareil, hein, finalement on se promène dans les rayonnages, on ouvre les livres, on les repose, on n'est pas obligé de les acheter, on n'est pas obligé de les lire, on n'est pas obligé de tout lire non plus. Et ça aussi c'est vraiment l'ADN du festival, c'est que chacun prend la place qu'il veut. Et c'est ça, en fait, ça appartient au Lavallois, ça appartient au Mayennais.
Exactement.
Alors est-ce que pour le coup, est-ce qu'il y aurait une rencontre qui t'aurait, une ou plusieurs rencontres, qui t'aurait particulièrement marqué
Alors, à la librairie.
Alors, ça peut être
parce
n'importe où.
Parce qu'au festival, le festival, je te laisse le choix de... Parce qu'on a rencontré tellement d'auteurs de primo-romanciers, là, je ne peux pas... Voilà. Mais c'est vrai qu'à la librairie Aime Lire, on a fait de très, très belles rencontres, quoi. On a fait des rencontres magnifiques, comme Jim Fergus, qui est venu à Aime Lire. Yann Manouk, Delphine de Vigan, elle est venue à Lecture en tête aussi. Craig Johnson, Katharina Mazzetti. Dans les auteurs mayennais aussi, il ne faut pas les oublier. Il y a Jean-Yves Frétinier, Jean-Loup Trassard, Aurélien Bélanger qui est venu aussi à la librairie. Donc tout ça, c'est des rencontres magnifiques dont on se souvient. Et moi, on parle de Jim Fergus tout de suite, c'est Mille Femmes Blanches, c'est rencontres magnifiques et extraordinaires, quoi. Et on avait reçu Yon Ril à ce moment-là à la librairie Aime Lire. On avait fait une pièce de théâtre, on avait... un accueil extraordinaire pour cet auteur, quoi.
Oui, c'est ça. Les auteurs sont toujours ravis d'être là aussi.
Voilà, en fait. Exactement.
C'est vraiment un échange. Voilà. Ouais. Il y a vous, les libraires, il y a le public et puis les auteurs qui sont toujours très généreux, en fait.
Très généreux parce que il y a une rencontre à la librairie, mais il y a aussi après un petit repas, une petite un échange hors librairie, hors littérature, quoi. Donc,
il y a un côté quand même très familial, finalement.
Voilà, familial
et
festif.
De créer. Oui, c'est ça.
C'est ça, exactement.
Il ne faut pas oublier que c'est une fête, en fait, la littérature et les rencontres comme ça.
Voilà.
Alors, c'est vrai que vous disiez des belles rencontres. Et en fait, tu m'as apporté des carnets. Alors, d'emblée, j'aurais tendance à dire des carnets de croquis, parce que ça y ressemble, en fait. Hein. Donc, ce sont des carnets de dédicaces, entre autres. Mais il y a aussi de très, très beaux... de très beaux croquis. C'est assez impressionnant. Alors, c'est dommage de ne pas pouvoir les montrer. Peut-être qu'on fera une petite photo qu'on pourra mettre sur le site. Est-ce que, je ne sais pas, à l'intérieur, parce que je ne veux pas non plus être trop intrusive, est-ce que tu veux nous lire peut-être une ou deux, je ne sais pas. Hein, c'est vraiment une...
Oui, je peux. Alors ça, c'est des livres
dédicace.
D'or. À chaque rencontre à la librairie, on avait un livre d'or où l'auteur ou le dessinateur nous faisait ou un croquis ou une petite phrase sympathique de bienvenue à la librairie et d'échange extraordinaire avec l'auteur.
Et puis on a des très beaux dessins. Puis on voit en plus la spontanéité, puis la maîtrise du geste. Enfin, pour le coup,
C'est des dessins inédits,
sublime, quoi.
Spécialement pour la librairie Aime Lire. C'était pour nous.
C'est
pour nous, libraires. La reconnaissance du libraire, voilà.
Est-ce que je te passe celui-là?
Hop. Je peux lire. Alors ça, c'était la venue d'Emmanuel Grant. Donc c'est un auteur de romans policiers. Merci pour votre invitation dans cette ville de Laval, perpétuellement ensoleillée. C'est le souvenir que j'ai, dont j'ai parlé. Très sympathique et merci à Emelyre de son accueil.
Non, c'est ça. Il y a du... En fait, il y a du soleil dans les librairies, voilà, en ça, fait. Même exactement. S'il n'y en a pas dans les rues.
Donc, il y a Frédéric Pommier aussi, qui est venu trois fois à la librairie. Quand
ah
même,
oui,
Frédéric Pommier
habitué.
Nous aime bien. Voilà, un habitué. Troisième visite à Emelyre, avec toujours le même plaisir. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Et pour les cadeaux également. Amitié. Voilà.
Ah ouais, bah si en plus ils sont gâtés.
Voilà, exactement.
Alors, ce que je disais tout à l'heure, on a pour habitude de proposer à nos invités une lecture. Alors, qu'est-ce que tu as choisi de nous lire, Marie ?
Alors, j'ai choisi de vous proposer un livre qui me tient vraiment à cœur. C'est Yon Rill. Donc, c'est un auteur du Grand Nord, mm-hmm. qui est décédé cet été, dont on n'a pas du tout entendu parler, enfin, du décès et de sa littérature.
Oui, ça aurait pu être l'occasion de rappeler
ce qu'il a écrit. Alors, il a écrit beaucoup sur la vie dans le Nord, des Esquimaux et des... Voilà. Et c'est un auteur qui a eu son heure de gloire. Comme on dit beaucoup dans les auteurs, ils ont leur heure de gloire et après, bon, ben, ils sortent plus de livres, donc on n'en parle plus. Mais ils sont toujours présents, enfin, ils sont toujours présents dans nos cœurs, étant donné qu'ils ont eu un passage extraordinaire dans leur heure de gloire. Et vraiment, c'est magnifique. Donc, c'est édité aux éditions Gaïa. À cette époque, les éditions Gaïa éditaient les livres sur du papier rose.
Oui.
Donc, voilà, et c'était leur particularité et vraiment, c'est extraordinaire.
Oui, ça fait un bel objet, en fait. C'est un beau, un très beau papier.
Exactement, exactement. Et ces éditions Gaïa, c'était tenu par Suzanne Houle et Bernard Saint-Bonnet, une petite maison d'édition qui maintenant n'édite plus sur du papier rose parce que ça coûte trop cher.
Et oui, malheureusement.
Mais qui est toujours présente et vraiment, c'est une maison d'édition remarquable et que j'ai toujours défendue en librairie.
Mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, de parler en plus des pages roses comme ça, parce que le livre, c'est quand même un bel objet. On oublie aussi les lecteurs, ils aiment le livre, mais rien que l'objet.
Voilà.
L'odeur du livre, effectivement, la qualité du papier, la couverture aussi.
Voilà.
Qui peut parfois être absolument magnifique. C'est vrai que c'est des objets qu'on aime avoir dans les mains, qu'on aime avoir chez soi.
Et à sentir aussi.
Oui, complètement.
C'est vrai que moi, à chaque fois que je prends un livre, je le sens. Il y a une odeur dans la littérature. Voilà, c'est déjà une première approche de la littérature.
On est déjà parti, en fait.
Voilà, exactement. Exactement.
Je te laisse lire, on t'écoute.
Le club des joyeux montagnards danois en 1897. Au beau milieu de la période la plus sombre, Mortensen reçut un signal via le sans-fil qui, en admettant que cela soit possible, rendit l'existence encore plus noire. Point par point, tiret par tiret, le message se déroulait et le crayon de Mortensen survolait le papier. Tandis que ses pensées restaient accrochées au concert qu'il avait programmé pour le printemps et où il avait l'intention d'improviser à partir d'une sélection de 10 hymnes nationaux, ce serait là ses premiers pas dans une musique sérielle. Quand il put enfin accuser réception du télégramme, après la radio Angmagatslik, il boucla l'émetteur et cria à Doc qu'il pouvait maintenant enfin descendre du générateur à pédale et commencer à préparer le café du soir. En sueur, Doc quitta la selle confortablement rembourrée, enleva ses pinces de vélo et demanda en hurlant s'il y avait eu des télégrammes urgents qui exigeaient une distribution immédiate. Mortensen ferma les yeux et résuma dans sa tête le continu, point par point, tiret après tiret. Arrivé au bout, il saisit la feuille et la regarda, incrédule. Sans un mot, il alla dans la pièce commune et jeta la feuille sur la table. Doc la lut, puis secoua la tête négativement. « Ça, j'ai pas très envie de le distribuer, » dit-il gravement. Mortensen hocha la tête. « Je comprends ça, mais t'es quand même obligé de le faire, de par tes fonctions, pour ainsi dire. À une condition, c'est que tu viennes avec moi. » Mortensen remplit la cafetière de café moulu et prit l'eau sur la cuisinière. C'est-à-dire que moi j'avais prévu de préparer le concert de printemps, dans les moindres détails. Je préfère que tu m'accompagnes, Doc. Doc regarda son compagnon d'un air suppliant. Et Mortensen détourna le regard. « Bon, si tu insistes vraiment, je suppose que je suis obligée, mais pas avant demain. » Ce n'est pas sans réticence que les deux hommes se mirent cap sur Borgenborg, distribuer les directives de la compagnie qui n'était jamais un plaisir, mais apporter le message à l'arrivée d'une expédition de 6 hommes à la période la plus active de l'année, ça tenait du suicide. On peut imaginer que c'est la raison pour laquelle Doc, avec Mortensen, sur son porte-bagages, pédala si lentement et fit autant de détours qu'ils montèrent souvent la tente, mangèrent beaucoup sans se presser le moins du monde. Le fameux télégramme était enfilé dans le cuir de la casquette de service qui reposait lourdement sur la tête de Doc. Or, il se trouve que leur inquiétude était sans aucun fondement. Borgen lut le message du sans-fil à haute voix pour ses amis. Au chef de la station de Borgenborg. Il leva les yeux d'un air mécontent. Ça aurait dû être adressé à Borgen, chef de station de Borgenson, pencha-t-il. Le directeur a peut-être voulu économiser un mot, suggéra Doc. Comme tu sais, chaque mot coûte 15 sous. Borgen le regarda atterré. Tu veux dire par là que le mot de Borgen ne vaut pas 15 sous ? Son regard détourna du télégramme. Le club des joyaux montagnards danois 1897, stop, arrivé à Borgenborg mi-août pour escalade de l'aiguille de l'Alène, stop. Borgenborg district, stop. Directeur exprime vœux de première importance, stop. L'expédition atteint son but, stop. Attend prestations grandioses de ceux de Borgenborg. Salutations, directeur, stop. Borgen renifla médativement le formulaire, pendant que Doc et Mortensen se tortillaient, inquiets sur le banc devant la cuisinière. Mais à leur plus grand soulagement, un petit sourire se fit déformer le coin de la bouche de Borgen, qui regarda Musso et se frotta les mains de bonne humeur. « Ça, mes amis, c'est une affaire exceptionnelle. Quoi encore ?» Musso tira avec agacement sur l'élastique qui maintient ses lunettes sur son nez. « Plein de choses, » répondit Borgen. « Primo, c'est un honneur pour Borgenborg. Deuxio, ça pourrait bien, des égards, se révéler une promotion pour nous, pour la station. Parce qu'on doit les promotionner jusqu'à l'aiguille de l'haleine. » Lasselil regarda son ancien maître droit dans les yeux. Mais dans ce regard, il n'y avait que curiosité et admiration enfantine. Borgen décida de ne pas prêter attention à la réflexion. Il se leva, alla chercher une bouteille de rhum. « Vous avez besoin sans doute d'un remontant, mes amis, » dit-il à ses hôtes. Cela a dû être un long et frisquet voyage à vélo pour descendre jusqu'ici. Vous restez quelques jours, je suppose. « Que jusqu'à demain, » répondait Mortensen. « Il faut qu'on rentre pour s'occuper de la préparation du concert de printemps. »« Ah oui, ce fameux concert de printemps !» Ses pensées tournèrent autour de l'expédition qui se profilait. « La laine ? Ah oui, la laine !» Borgen reposa la bouteille et prit un ton doctoral qui donnait invariablement l'urticaire à Musso. « La laine, mon ami, ce n'est pas un effet la plus haute montagne du Groenland. Par contre, je la considère comme relativement inaccessible de tous côtés. Pourrie au cœur, raide à vous dégoûter. Érosion, froid extrême, chaleur torride, tempête indescriptible, neige, grêle, pluie torrentielle, tout ça travaille la laine depuis des millénaires. Et en fait, le but tout à fait honorable pour le club des joyeux montagnards danois. « Doivent-ils marcher ou courir jusqu'en haut, Borg ?» Borgen le fixa d'un air sévère. Mais il n'y avait jamais que candeur à lire sur leur jeune visage. « Ils doivent grimper, mon jeune ami, avec corde, piton, piolet et autres matériels. Parce que c'est très compliqué d'être alpiniste et cela exige d'importantes ressources techniques, ainsi que physiques exceptionnelles et psychiques à toute épreuve. Cette année-là, Valsemarie se rendit directement à Borgen pour y déposer le club des montagnards et le rencombrant matériel, lequel était constitué de quatre grandes tentes avec leur mobilier, un cuisinier qui faisait officier pendant un certain nombre d'années à la prison d'État de Monkson, 16 rouleaux de cordage, des mousquetons, des poulies, des piolets, des baudriers, des appareils à des bottes, des pantalons, 100 litres d'eau de vie et 5 caisses de bière quand même. Il a fallu déménager tout ce matériel sur le bateau pour atteindre l'île d'Allen. Mais avant tout ça, ils sont accueillis avec bonne humeur, ces montagnards, où ils ont passé une soirée mémorable à boire de l'eau de vie et du rhum, si bien que ces montagnards ont mis 3 jours à se remettre de cette fameuse soirée avant d'atteindre l'île d'Allen.
J'adore, le club des joyeux montagnards. Voilà.
Exactement.
Ça se termine
donc
très
bien. C'est tiré du livre de Jon Rill, Les grands bobards et autres racontars.
Voilà, et on disait que la littérature était vraiment très accessible, et voilà, et on s'amuse.
Et on boit beaucoup. Voilà,
et c'est on boit beaucoup. Eh bien, merci beaucoup pour cette lecture, parce que ce n'est pas toujours un exercice facile de lire comme ça. Mais c'est agréable, en fait, pour les, je trouve, d'écouter des lectures. Voilà. C'est des choses qu'il faudrait organiser aussi peut-être plus souvent, parce que écouter comme ça, c'est chouette. On peut vraiment se laisser porter. Puis parfois, il y a la crainte de l'effort de la lecture. Voilà, pour le coup, on n'a pas du tout. En tout cas, en tant qu'auditeur, on a plus d'effort à faire. On a juste à se laisser porter et bercer par les mots. C'est vraiment super chouette. Alors, qu'est-ce que tu lis en ce moment, Marie?
Alors, c'est la rentrée littéraire, Donc, je suis toujours, même étant à la retraite, je suis toujours la rentrée littéraire.
Oui, j'imagine que ça ne s'arrête jamais.
Mais ça ne s'arrête jamais.
C'est une maladie.
Mais...
On a toute une vie.
Donc, tous les romans, je suis un petit peu, mais je suis de plus en plus de loin à la rentrée littéraire quand même.
Mais il y a moins d'obligations peut-être. Là, c'était juste le plaisir, en fait.
Le plaisir, et puis, le plaisir de lire et le plaisir de découvrir d'autres auteurs.
Oui, toujours
auteurs,
découvrir, exactement. Mais peut-être avec moins d'urgence,
d'en
lire beaucoup.
Exactement, où on passait notre été à lire une partie de la rentrée littéraire avec Delphine, Simon et Guillaume de la librairie. Mm-mm. Et vraiment, c'était impressionnant, On passait notre temps l'été à lire et Donc,
Oui, puis pas toujours forcément avoir le choix de la lecture. Parce qu'on a tous, même si on est libraire et qu'on aime les livres, on a quand même aussi une sensibilité et des préférences.
Donc là, j'ai choisi un premier roman.
Très bien.
J'espère qu'il va être dans la sélection, mais après c'est une autre histoire, c'est pas moi qui choisis.
Mais c'est bien de toute façon d'en parler parce que...
Donc le titre
roman.
C'est « Par-delà l'oubli », c'est de Aurélien Cressely. Donc ce roman c'est l'histoire en fin de compte du frère de Léon Blum qui s'appelait René Blum. Et c'est toute sa vie qui était un petit peu artiste, qui s'occupait des troupes de théâtre, qui s'occupait un petit peu de littérature, où il rencontrait beaucoup, beaucoup de monde, et qui a été bien sûr fait prisonnier parce qu'il était juif comme son frère. Et là, il raconte sa vie dans les camps, où il a essayé de recréer quelques pièces de théâtre, quelques lectures.
C'est ça qui est fou, en fait.
Et c'est fou, c'est incroyable. Et c'est vraiment un roman très, très bien écrit.
Oui, sur une espèce de pulsion, finalement, de vie. Et puis,
de vie, exactement.
Portée par les arts.
Et c'est paru aux éditions Gallimard. C'est une belle découverte, découverte du frère de Léon Blum, qui s'appelle René Blum. Voilà.
Peut-être fera-t-il partie de notre sélection.
Voilà, exactement.
En tout cas, vous serez là pour l'écouter si toutefois il est sélectionné.
Voilà.
Eh bien, écoutez, l'émission se termine. Merci beaucoup, Marie, d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous et merci à l'association de Lecture en Tête. C'est... Et à l'autre radio, bien sûr.
Évidemment. Donc, écoutez, nous allons nous quitter sur votre second choix musical, donc avec Françoise Hardy, L'amitié.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes...